Épître aux Romains, introduction des chapitres 9 à 11. Nous sommes arrivés à un tournant de notre épître. L'apôtre, jusqu'ici, nous a conduits des sombres profondeurs de la corruption humaine jusqu'au sommet lumineux de la grâce divine. Le chapitre 8, qui nous a dépeint d'une manière saisissante toute la position chrétienne, le résultat de la merveilleuse opération de Dieu en amour et en grâce, s'est terminé par l'énumération de toutes les bénédictions qui sont devenues aujourd'hui la part du croyant en Christ. Dieu n'a pas épargné son Fils unique afin de pouvoir nous donner toutes choses avec lui. Les trois chapitres suivants, chapitres 9 à 11, nous introduisent dans un nouveau domaine où nous ne serons plus occupés de choses nécessaires à notre paix et à notre salut éternel, mais l'Esprit nous fait entrer dans les pensées et les conseils divins, dans le chemin de la sagesse et de la connaissance. Aussi, ce sujet ne se termine pas par un chant de louange célébrant l'amour de Dieu, mais par ses paroles, ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Chapitre 11, versets 33 et 34. La foi contemple avec triomphe les voies merveilleuses de Dieu qui lui sont enseignées par les communications de l'Esprit. Oui, Dieu ne veut pas seulement que ses enfants se reposent dans le plein salut qui leur a été donné dans son bien-aimé, mais il veut aussi leur faire connaître ses pensées. Quelle grâce merveilleuse ! L'apôtre, ayant enseigné au commencement de son épître que les Juifs et les païens étaient tous indistinctement corrompus, mais que l'appel de la grâce s'adressait également aux uns et aux autres indistinctement, la question devait involontairement se poser. Si Dieu place juifs et gentils sous le rapport moral, sur le même terrain, et si, dans la puissance de son amour et dans la richesse de sa grâce, il sauve tous les croyants et en fait ses enfants en Christ, que deviennent alors les promesses inconditionnelles qu'il a faites à son peuple élu? Comment s'accordent-elles avec l'appel sans distinction des juifs et des nations aux bénédictions du Nouveau Testament? Si Israël, sous la loi, a perdu tous ses droits aux bénédictions qui étaient liés à l'accomplissement de la loi, cela ne change rien aux promesses qui avaient été données avant la loi et sans condition. Genèse 15, versets 17-18.
Et il arriva que le soleil s'étant couché, il y eut une obscurité épaisse, et voici une fournaise fumante et un brandon de feu qui passa entre les pièces des animaux. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham, disant « Je donne ce pays à ta semence, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. »
Dieu les avait-il entièrement oubliés? Avait-il rejeté son peuple à toujours? En répondant à ces questions, sous la direction du Saint-Esprit, le cœur de l'apôtre est rempli d'une telle admiration qu'à la fin du 11e chapitre, il prononce les paroles que nous avons déjà mentionnées. Nous aussi, en méditant ces chapitres, nous recevrons de profondes impressions, d'une part de la justice et du sérieux des voies de Dieu, et d'autre part aussi de sa fidélité invariable et de la vérité inébranlable de sa parole. Puissions-nous, nous aussi, sous la direction du Saint-Esprit, qui sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu, saisir ces choses avec respect. 1 Corinthiens 2, verset 10.
Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu.
Chapitre 9.
Lecture de la parole. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rendant témoignage par l'Esprit Saint, que j'ai une grande tristesse et une douleur continuelle dans mon cœur, car moi-même j'ai souhaité d'être par anathème séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, auxquels sont l'adoption et la gloire et les alliances et le don de la loi et le service divin et les promesses, auxquels sont les pères et desquels selon la chair est issu le Christ, qui est sur toutes choses Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas cependant comme si la parole de Dieu avait été sans effet, car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Aussi, pour être la semence d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants, mais en Isaac te sera appelée une semence, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour semence. Car cette parole est une parole de promesse. En cette saison-ci, je viendrai et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais aussi quant à Rebecca, lorsqu'elle conçut d'un d'Isaac notre père, car avant que les enfants fussent nés et qu'ils n'eussent rien fait de bon ou de mauvais, afin que le propos de Dieu selon l'élection demeurât, non point sur le principe des œuvres, mais de celui qui appelle, il lui fut dit, le plus grand sera asservi au plus petit. Ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Qu'ainsi n'advienne. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit au Pharaon, c'est pour cela même que je t'ai suscité, pour montrer en toi ma puissance, et pour que mon nom soit publié dans toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, pourquoi se plaint-il encore? Car qui est-ce qui a résisté à sa volonté? Mais plutôt, toi, ô homme, qui es-tu qui conteste contre Dieu? La chose formée, dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu ainsi faite? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse un vase à honneur et un autre à déshonneur? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère, tout préparés pour la destruction, et afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire, lesquels aussi il a appelés, savoir nous, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations, comme aussi il dit en Osée, « J'appellerai mon peuple » celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas bien-aimée. Et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit « Vous n'êtes pas mon peuple », là ils seront appelés fils du Dieu vivant. Mais Ésaïe s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, le résidu seul sera sauvé. » Car il consomme et abrège l'affaire en justice, parce que le Seigneur fera une affaire abrégée sur la terre. Et comme Ésaïe a dit auparavant, si le Seigneur Sabaoth ne nous avait laissé quelques semences, nous serions devenus comme Sodome, et nous aurions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc? Que les nations qui ne poursuivaient pas la justice ont trouvé la justice qui est sur le principe de la foi. Mais Israël, poursuivant une loi de justice, n'est point parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que ce n'a point été sur le principe de la foi, mais comme sur le principe des œuvres, car ils ont heurté contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, et un rocher de chute, et celui qui croit en lui ne sera pas confus.
Lecture de l'étude. L'apôtre, avant d'entrer dans le fond de son sujet, donne à ses parents selon la chair une preuve aussi touchante que saisissante de son affection ardente pour Israël. On lui reprochait à lui, l'apôtre des nations, d'être un apostat qui avait rompu ses relations avec Israël et de mépriser sa propre chair et son sang, oubliant les pensées de Dieu en rapport avec la semence d'Abraham. Combien peu les hommes qui avaient ces pensées connaissaient le cœur de cet homme merveilleux, ce cœur qui, en considérant l'état de son peuple bien-aimé et les jugements divins qui étaient venus sur Israël à cause de son incrédulité et de sa rébellion, saignait de mille blessures. C'est avec des expressions que l'on ne pourrait pas imaginer plus fortes, telles que « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience me rendant témoignage par l'Esprit-Saint », qu'il assure ses compatriotes de son ardente affection envers eux, et cela non pas seulement pour ceux au milieu desquels il avait vécu et travaillé comme un pharisien zélé et fidèle à la loi, mais aussi ensuite, après son appel, comme apôtre de Jésus-Christ. Au lieu de mépriser ses frères, ou même de les haïr et de perdre de vue les privilèges que Dieu leur avait accordés, son cœur était rempli à leur égard d'une grande tristesse et d'une douleur continuelle. Oui, de même que Moïse autrefois, à l'occasion de l'érection du veau d'or, avait demandé à Dieu d'effacer son nom de son livre, l'apôtre avait désiré d'être, par anathème, séparé du Christ pour ses frères. Cette grande tristesse et cette douleur continuelle l'avaient tellement saisi qu'il avait exprimé un désir qui ne pouvait se réaliser et dont l'accomplissement n'aurait du reste servi de rien à son peuple, exactement comme dans le cas de Moïse. Mais ce désir témoignait de l'ardente affection qu'il avait pour ses parents selon la chair. C'était l'amour divin, l'amour désintéressé de Christ qui opérait en lui, comme autrefois en Moïse, et qui rendait ces deux hommes capables de tout accomplir, même l'impossible, pour servir les objets de cet amour. C'est ce même amour qui engage l'apôtre à énumérer ensuite tout le bien qu'il peut dire de ses compatriotes. La haine profite de toute occasion pour rabaisser son objet et diminuer le bien qui le caractérise. L'amour fait l'opposé. Tout d'abord, les frères de l'apôtre étaient israélites, c'est-à-dire les descendants de cet homme qui avait lutté avec Dieu et les hommes et qui avait prévalu. Genèse 32, verset 28.
Et il dit, « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. »
Il possédait, mais pas dans le sens chrétien actuel, l'adoption. L'Éternel avait fait dire au Pharaon, « Mon fils, mon premier-né, est Israël, et laisse aller mon fils. » Puis il possédait la gloire. Exode 29, verset 43.
Et je me rencontrerai là avec les fils d'Israël, et la tente sera sanctifiée par ma gloire.
Et les alliances, et le don de la loi, où y avait-il un peuple semblable à lui, qui, d'entre toutes les tribus de la terre, avait été reconnu de Dieu, et auquel Dieu avait donné de si bons et si justes commandements? Et les promesses, et les pères. Et finalement, comme glorieux couronnement du tout, d'Israël, selon la chair, était issu le Christ, le Messie, qui est sur toute chose Dieu béni éternellement. Avec quelle force devaient tomber de telles paroles sur les cœurs et les consciences de ceux qui jetaient un tel discrédit sur l'apôtre? En réalité, s'il y avait un homme qui aimait le peuple terrestre de Dieu, c'était bien lui. Il était le dernier que l'on pouvait accuser de mésestimer les privilèges d'Israël. C'était bien plutôt à lui qu'il appartenait d'adresser un tel reproche à ses parents selon la chair, incrédules qui ne reconnaissaient pas le plus élevé de tous leurs privilèges, à savoir que le Christ Jésus, Dieu manifesté en chair, étaient d'Israël. Qui d'entre eux souffrait autant que Paul du rejet d'Israël? Pour cette raison, il était l'homme qui pouvait déclarer à Israël que Dieu n'avait pas rejeté son peuple, si même il était alors dans la souffrance dans laquelle il est encore aujourd'hui sous les coups des jugements de Dieu. En outre, il lui montrait que seule la grâce souveraine de Dieu pourrait le restaurer, la même grâce qui était devenue la part des gentils et qui s'adressait aussi à eux, leur apportant un accomplissement beaucoup plus glorieux des promesses qu'ils n'auraient jamais pu l'espérer. Dans leurs efforts pour se procurer une propre justice, ils n'avaient pas obtenu la justice qui est par la foi, mais ils étaient devenus un peuple désobéissant et contredisant, vers lequel Dieu avait étendu ses mains en vain. Chapitre 10, versets 3 et 21.
Car, ignorant la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Mais quant à Israël, il dit, « Tout le long du jour, j'ai étendu mes mains vers un peuple désobéissant et contredisant. »
Qui est-ce qui pouvait donc les secourir? Nous l'avons déjà dit, la souveraineté de Dieu qui, malgré tout, pouvait agir en grâce et sauver un résidu selon l'élection de la grâce. Si même le peuple, dans son ensemble, au lieu d'obtenir ce qu'il cherchait, encourait la juste colère de Dieu, il y avait cependant encore, selon le propos de Dieu, un résidu qui serait sauvé, tandis que les autres seraient rejetés. Chapitre 11, versets 3 à 7.
Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et moi je suis demeuré seul, et ils cherchent ma vie. Mais que lui dit la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ainsi donc, au temps actuel aussi, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus sur le principe des œuvres, puisque autrement la grâce n'est plus la grâce. Quoi donc, ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu et les autres ont été endurcis.
En poursuivant notre chapitre, nous voyons que l'apôtre continue à parler de la souveraineté de Dieu et prouve aux Juifs, par leur propre histoire, que Dieu avait toujours agi selon cette souveraineté, et combien il était bon pour eux qu'il en ait été ainsi, et que Dieu continue à agir ainsi. C'était leur seule ressource, autrement ils auraient été irrémédiablement perdus. Mais est-ce que sa parole n'avait donc pas été sans effet, verset 6, par le fait qu'il ouvrait la porte de la grâce aux nations? N'était-il pas devenu infidèle à ses promesses envers les pères? Non. La parole de Dieu a gardé toute sa puissance et mérite la confiance. Seul l'homme, et en première ligne le juif, se sont montrés infidèles. Comme on le fait aussi de nos jours, les juifs cherchaient à convertir les promesses qu'Abraham avait reçues en une obligation pour Dieu de ne bénir que toute la descendance naturelle du patriarche. L'exclusion des nations s'ensuivait naturellement. Mais, dit l'apôtre, tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Aussi, pour être la semence d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants, versets 6 et 7. Le Seigneur lui-même avait déjà rendu attentifs les Juifs à cette sérieuse différence entre la semence d'Abraham et les enfants d'Abraham. La descendance naturelle d'Abraham ne donnait à personne un droit aux promesses. Et si les Juifs voulaient néanmoins s'en tenir à ces promesses, ils devaient aussi reconnaître, comme étant les fils d'Abraham, les Bédouins, et comme ayant les mêmes droits qu'eux, puisqu'ils étaient les fils d'Ismaël, fils d'Abraham. Et avec un droit encore plus grand, les Édomites, qui étaient les descendants d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Ils ne le voulaient naturellement pas. Comment un juif aurait-il pu partager des bénédictions avec des païens impurs, avec des chiens? C'était entièrement hors de question. Les promesses n'appartenaient qu'à la lignée d'Isaac, c'est-à-dire de Jacob. En Isaac te sera appelée une semence, verset 7. Or, s'il en était ainsi, et la descendance naturelle n'avait donc que bien peu de valeur, pour ce qui concerne d'abord Ismaël, il était bien un vrai fils d'Abraham, mais il était né selon la chair, et la chair ne sert de rien devant Dieu. Galates 4, verset 23.
Mais celui qui naquit de la servante naquit selon la chair, et celui qui naquit de la femme libre naquit par la promesse.
Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour semence, verset 8. Déjà à la fin du deuxième chapitre, l'apôtre avait dit « Celui-là n'est pas juif qu'il est au dehors, et celle-là n'est pas la circoncision qu'il est au dehors dans la chair. » Non, la décision appartient à Dieu seul, et il lui a plu d'appeler Isaac et non Ismaël. Cet appel se fondait sur une libre décision, sur le propos de Dieu, selon l'élection. Car cette parole est une parole de promesse, « En cette saison-ci je viendrai, et Sarah aura un fils. » Verset 9. Aucun juif ne pouvait se soustraire à la puissance de cette argumentation, sinon il devait, comme nous l'avons dit, reconnaître aux descendants d'Ismaël et d'Ésaü les mêmes droits qu'à ceux d'Israël. Or, on pouvait soulever cette objection. La mère d'Ismaël était une servante égyptienne, une esclave, tandis qu'Isaac était né de Sarah, la femme légitime d'Abraham. Mais qu'en était-il de Rebecca? Non seulement elle n'était pas une servante, mais elle descendait de la famille d'Abraham, et elle donna à son mari des jumeaux. On n'aurait pas pu imaginer un cas qui convienne mieux à l'argumentation de l'apôtre. Ésaü et Jacob étaient fils du même père, nés en même temps de la même mère, et pourtant Dieu dit à Rebecca, même avant leur naissance et avant qu'ils aient accompli du bien ou du mal, alors qu'on ne pouvait établir entre eux une différence, le plus grand sera asservi au plus petit. Ou, en d'autres mots, le droit d'aînesse passera du plus âgé au plus jeune. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait décidé. C'était son propos, sa volonté souveraine au sujet du plus jeune, afin que, comme l'apôtre le dit expressément, le propos de Dieu selon l'élection demeura, non point sur le principe des œuvres, mais de celui qui appelle, verset 11. Les œuvres des deux enfants n'avaient en rien à faire avec l'appel. Avant qu'ils fussent nés, donc avant qu'ils aient pu faire quoi que ce soit méritant la bénédiction, Dieu avait arrêté son choix. Mais, pourrait-on objecter, ne lisons-nous pas tout de suite après que Dieu a aimé Jacob et qu'il a haï Ésaü? Oui, la chose est écrite. Et il ne nous appartient pas d'amoindrir cette parole en aucune façon. Remarquons d'abord que Dieu n'a pas prononcé ces paroles, comme les autres, avant la naissance des enfants, mais qu'elles se trouvent en Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui vivait environ 1400 ans après la naissance des deux jumeaux, c'est-à-dire à un moment où Ésaü avait manifesté depuis longtemps son impiété, et ses descendants, les Édomites, leur inimitié implacable contre Israël. Si Dieu dit donc qu'il a aimé Jacob, mais qu'il a haï Ésaü, c'est que cet amour a trouvé sa source dans son cœur. Cet amour était libre et immérité, tandis que la haine était basée sur l'état moral d'Ésaü. Les deux enfants étaient nés et se sont sans doute développés dans le péché. Mais tandis que les conseils de Dieu ont eu leur accomplissement dans l'un, l'autre a reçu une juste punition de ses mauvaises voies. Comme la déclaration du prophète Malachie, en rapport avec ce qui nous occupe, a pu causer des difficultés à plus d'un lecteur et a été souvent faussement interprétée, il est important d'accentuer le fait qu'elle a été prononcée longtemps après la mort des deux fils d'Isaac. Nous n'en trouvons rien en Genèse 25. On n'en peut donc pas tirer la conclusion que Dieu a aimé d'avance l'un des fils et haï l'autre, et a ainsi déterminé, dès le début, le sort éternel des deux enfants, ni en conclure qu'il a parlé ainsi à cause de sa connaissance divine de l'avenir. Ces deux déductions sont fausses. L'homme déduit si volontiers le rejet de l'un de l'élection de l'autre. Le fait est que si de deux hommes qui n'ont tous deux aucune prétention à faire valoir devant lui, Dieu, comme c'est le cas ici, en choisit un pour l'élever dans une position plus privilégiée que l'autre, c'est sa volonté souveraine, et qui peut alors lui dire « Pourquoi agis-tu ainsi ?» S'il lui plaît de se glorifier dans sa grâce envers un homme, personne n'a le droit de lui en faire un reproche. L'élection de l'un n'implique pas du tout la condamnation de l'autre. Voici encore une deuxième objection. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Qu'ainsi n'advienne, verset 14. L'homme qui raisonne selon la chair se demande « Si de deux êtres également pécheurs, Dieu sauve l'un et laisse aller l'autre à la perdition, n'agit-il pas alors injustement ?» La question en elle-même démontre déjà la présomption du cœur humain qui s'arroge le droit de juger Dieu au lieu de se laisser juger par lui et de se soumettre à son jugement. Car dès que je mets en question la souveraineté de Dieu, je m'élève en juge de Dieu. Mais si Dieu est Dieu, il faut qu'il soit souverain dans tous ses actes. Toute doctrine qui nie la majesté souveraine de Dieu ou qui le considère comme indifférente au péché et à la misère de l'homme est opposée à la vérité et indigne de Dieu. Dieu est lumière, et il n'est pas possible que la lumière s'unisse aux ténèbres dans le cœur de l'homme. Dieu est amour, et l'amour est libre d'agir en sainteté selon sa nature. L'homme, ne se connaissant pas lui-même et ne connaissant pas Dieu, ni sa complète ruine, regimbe contre la parole de Dieu et critique ses voies. En le faisant et en osant même se placer devant Dieu sur le terrain de la justice, il prononce un jugement contre lui-même et justifie Dieu, comme nous allons le voir dans l'histoire d'Israël. Après la question des Juifs, y a-t-il de l'injustice en Dieu, et le « qu'ainsi n'advienne » de l'apôtre, vient immédiatement la parole, car il dit à Moïse « Je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Au premier abord, cette déclaration pourrait nous paraître étrange, mais si nous nous rappelons à quelle occasion elle fut prononcée, nous découvrirons que l'apparente dissonance devient une harmonie parfaite. Plus nous considérons en détail les circonstances qui ont été l'occasion de cette déclaration, plus nous sommes frappés de la force d'argumentation de la réponse de l'apôtre. Jusqu'à la montagne de Sinaï, la grâce de Dieu avait porté Israël sur des ailes d'aigle, et là Dieu leur posa une condition. « Si vous écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance, ce à quoi ils répondirent, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. » Exode 19, versets 5 et 8. Au lieu de se confier pour l'avenir à cette grâce de Dieu, ils avaient la prétention, malgré les humiliantes expériences qu'ils avaient déjà faites, d'accomplir par leur propre force les commandements de Dieu. La conséquence en fut l'alliance de la loi, la présentation des justes et saintes exigences de Dieu envers des hommes dans la chair. C'est ainsi que commença la vraie histoire d'Israël comme peuple. Moïse monta sur la montagne pour recevoir les commandements de Dieu. Comme il tardait, le peuple fut impatient et engagea Aaron à lui faire un veau d'or. Israël enfreignit ainsi grossièrement le premier et le plus grand de tous les commandements. Il ne restait donc rien d'autre pour lui qu'un jugement immédiat et terrible. À peine son histoire comme peuple était-elle commencée, qu'il perdait d'un seul coup tout ce à quoi il avait droit, à la condition d'une prompte obéissance. Dieu qui lui avait fait des promesses et qui pouvait les accomplir avait été grandement offensé. Son alliance était brisée. Que restait-il pour Israël ? Si Dieu avait agi envers son peuple en justice et sur le terrain de la loi, il devait les exterminer tous. Tous les Juifs qui connaissait l'histoire de ces jours-là devait reconnaître l'exactitude de cette argumentation. Si le principe de la justice avait été maintenu dans les relations du peuple avec Dieu, le sort d'Israël aurait été décidé définitivement à ce moment-là, comme Dieu le dit à Moïse. « J'ai vu ce peuple, et voici c'est un peuple de cou roide, et maintenant laisse-moi faire, afin que ma colère s'embrase contre eux, et que je les consume. » Exode 32, versets 9 et 10. Ce n'est assurément pas à cause de leur justice que Dieu leur a donné le bon pays, Deutéronome 9, verset 6.
Et sache que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour le posséder, car tu es un peuple de cou roide.
Mais parce qu'ils avaient écouté l'intercession de Moïse, un type de Christ, et qu'ils se plaçaient sur le terrain de sa grâce illimitée, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je ferai grâce à qui je ferai grâce. » Exode 33, verset 19. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pouvaient se repentir du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple et pardonner leur méchanceté. Il y a plus encore. C'est dans cette rébellion du peuple qui, sur le terrain de la justice, devait attirer sur lui le jugement que Dieu, dans sa grâce, put trouver un motif pour marcher au milieu du peuple. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, » ainsi pria Moïse, chapitre 34, verset 9, « que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple de cou roide. »
« Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, que le Seigneur marche, je te prie, au milieu de nous, car c'est un peuple de cou roide, et pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour héritage. »
Combien tout cela est merveilleux, quand l'homme, à cause de sa conduite, est irrémédiablement perdu, quand la justice de Dieu ne peut, à cause de sa désobéissance et de son péché, lui révéler que la colère et le jugement. Quand la loi doit le maudire et le condamner à mort, Dieu trouve en lui-même des ressources auxquelles il peut recourir. Considérant d'avance le grand médiateur à venir, qui trouve ici en Moïse un si beau type, Dieu pouvait user de grâce et de miséricorde, et cela, remarquons-le bien, envers qui il voulait, selon le propos de sa libre grâce inconditionnelle. Ainsi donc, ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, verset 16. Or, quand Dieu veut user de grâce, combien grave est le péché d'un homme qui s'oppose à cette volonté et cherche à contrecarrer les vues de Dieu. Il doit être connu sur toute la terre comme le Dieu qui ne permet pas qu'on se moque de lui impunément. Considéré à ce point de vue, nous comprenons bien la parole qui suit, car l'Écriture dit au Pharaon, c'est pour cela même que je t'ai suscité, pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié dans toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Versets 17 et 18. Le Pharaon devait rester pour toujours un exemple de ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, peut faire d'un homme qui, au commandement de Dieu, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le désert », osa répondre avec un terrible orgueil, « Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix ? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas non plus aller Israël. » Puis, en plus de ces paroles blasphématoires, il donna l'ordre de rendre encore plus pénible le service déjà si dur des Israélites et d'exiger d'eux l'impossible. Exode 5, verset 1er.
Et après cela, Moïse et Aaron allèrent et dirent au Pharaon, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. » Et le Pharaon dit, « Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix et que je laisse aller Israël ? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas non plus aller Israël. »
Le message de Dieu éveilla dans cet homme orgueilleux et cruel le désir de s'opposer à la volonté de Dieu et d'anéantir ses plans. Remarquons aussi que son état devint toujours pire à mesure que Dieu parla avec lui. Nous lisons sept fois « Le cœur du Pharaon s'endurcit » ou « Le Pharaon endurcit son cœur ». Ce ne fut finalement qu'après que les plus terribles plaies furent venues sur lui et que ses sages et ses magiciens durent lui avouer, c'est le doigt de Dieu qui l'est dit, et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon. Et lorsque, enfin, il eut autorisé Israël à s'en aller, la méchanceté incorrigible de son cœur se manifesta de nouveau en ce qu'il poursuivit, écumant de rage, le peuple avec sa puissante armée, se berçant toujours de l'illusion de pouvoir résister au bras de l'Éternel. Est-ce étonnant alors que Dieu l'ait finalement endurci en jugement et se soit servi de lui comme d'un exemple d'avertissement pour tous les temps? Dieu ne destine jamais un homme à l'endurcissement. Il ne rend jamais un homme mauvais. Mais c'est l'homme qui, asservi par sa chute sous la puissance du péché, descend toujours plus bas dans le mal. Dieu a laissé cet homme s'élever à une très grande hauteur, afin que sa terrible destruction dans la mer Rouge montre dans tous les temps ce que c'est de s'endurcir contre Dieu. Son histoire parle de nos jours encore aux consciences des hommes. Ce qui est arrivé au Pharaon est arrivé également au peuple d'Israël, avec cette différence que ce peuple a été, à ce moment-là, et si souvent plus tard, l'objet de la grâce de Dieu qui sauve ou qui restaure. Ce fait rend sa responsabilité d'autant plus grande et sa chute d'autant plus profonde. Au lieu d'écouter les sérieux avertissements de Dieu, ils se rebellèrent contre lui, jetèrent sa loi derrière leur dos et lui firent de grands outrages. Oui, ils se moquaient des messagers de Dieu et méprisaient ses paroles et se raillaient de ses prophètes, exactement comme le Pharaon, jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel montât contre son peuple et qu'il n'y eut plus de remède. Deux Chroniques 36, versets 14 à 16.
Tous les chefs des sacrificateurs aussi et le peuple multiplièrent beaucoup leurs péchés selon toutes les abominations des nations, et ils rendirent impure la maison de l'Éternel qu'ils avaient sanctifiée à Jérusalem. Et l'Éternel, le Dieu de leur père, envoya vers eux par ses messagers, se levant de bonne heure et envoyant, car il avait compassion de son peuple et de sa demeure. Mais il se moquait des messagers de Dieu, et méprisait ses paroles, et se raillait de ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel montât contre son peuple, et qu'il n'y eut plus de remède.
Néhémie 9, versets 26 à 29.
Mais ils se rebellèrent et se révoltèrent contre toi, et jetèrent ta loi derrière leur dos, et tuèrent tes prophètes qui rendaient témoignage contre eux pour les ramener à toi, et ils te firent de grands outrages, et tu les livras en la main de leurs adversaires qui les opprimèrent. Et au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi, tu entendis des cieux, et selon tes grandes compassions, tu leur accordas des sauveurs qui les sauvèrent de la main de leurs oppresseurs. Mais quand ils avaient du repos, ils recommençaient à faire le mal devant toi, et tu les abandonnais en la main de leurs ennemis, et ceux-ci dominaient sur eux. Et de nouveau, ils criaient à toi, et toi, tu entendais des cieux, et tu les délivras maintes fois, selon tes compassions. Et tu rendis témoignage contre eux pour les ramener à ta loi. Mais ils agirent avec fierté, et n'écoutèrent pas tes commandements, et péchèrent contre tes ordonnances, par lesquelles, s'ils les pratiquent, un homme vivra. Et ils opposèrent une épaule revêche, et roidirent leurs coups, et n'écoutèrent pas.
Nous posons de nouveau la question. Est-il étonnant que Dieu adresse à son prophète Ésaïe les paroles « Engraisse le cœur de ce peuple, et rend ses oreilles pesantes, et bouche ses yeux, de peur qu'il ne voie des yeux, et n'entende de ses oreilles, et ne comprenne de son cœur, et ne se convertisse, et qu'il ne soit guéri. » Un aveuglement spirituel et un endurcissement s'emparèrent de la part de Dieu de leur méchant cœur rebelle, et lorsque le Seigneur Jésus vint plus tard au milieu d'eux, ils ne crurent pas en lui. Ils ne purent pas croire, parce qu'Ésaïe a dit, il a aveuglé leurs yeux, etc. Ésaïe 6, versets 8 à 10.
et j'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Et je dis « Me voici, envoie-moi. » Et il dit « Va et dis à ce peuple, en entendant vous entendrez et vous ne comprendrez pas, et en voyant vous verrez et vous ne connaîtrez pas. Engraisse le cœur de ce peuple, et rend ses oreilles pesantes, et bouche ses yeux de peur qu'il ne voie des yeux et n'entende de ses oreilles, et ne comprenne de son cœur et ne se convertisse, et qu'il ne soit guéri. »
Jean 12, versets 37 à 40.
Et quoiqu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent pas en lui, afin que la parole d'Ésaïe le prophète qu'il prononça fût accomplie. « Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» C'est pourquoi ils ne pouvaient croire, parce qu'Ésaïe dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas des yeux, et qu'ils n'entendent pas du cœur, et qu'ils ne soient convertis, et que je ne les guérisse. »
Pareillement, l'apôtre Pierre parle des désobéissants de nos jours, lesquels ont été destinés à heurter contre la parole. 1 Pierre 2, versets 7 et 8.
C'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix. Mais pour les désobéissants, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin. C'est une pierre d'achoppement et un rocher de chute, lesquels heurtent contre la parole étant désobéissants, à quoi aussi ils ont été destinés.
Dieu a destiné ces hommes orgueilleux, comme le pharaon d'autrefois, à servir d'exemple et d'avertissement pour d'autres. Il ne les a pas rendus désobéissants, mais il les a livrés à la dureté de leur cœur après de nombreux avertissements inutiles. Ainsi donc, dans les deux cas, soit que Dieu fasse grâce à l'homme ou l'endurcisse, l'injustice n'est pas du côté de Dieu, mais du côté de l'homme qui, en ce qui le concerne, est irrémédiablement mauvais et corrompu. Dans les deux cas, que ce soit la grâce ou le jugement, Dieu agit toujours pour glorifier son grand nom. Tous ceux qui lisent la parole de Dieu avec un peu d'intelligence spirituelle ne trouveront pas là de difficulté. La raison humaine seule en tire toujours de fausses déductions. L'apôtre, conduit par l'Esprit de Dieu, énumère ces déductions l'une après l'autre et les réfute d'une manière qui suscite notre profonde admiration. Nous arrivons maintenant à la dernière objection. Tu me diras donc, pourquoi se plaint-il encore? Car qui est-ce qui a résisté à sa volonté? Verset 19. En d'autres termes, si Dieu fait grâce à qui il veut, que puis-je y faire? Et s'il endurcit qui il veut, comment s'y opposer? S'il est le Dieu souverain, il ne me reste rien d'autre à faire qu'à me soumettre à sa volonté. L'objection semble bien fondée. Pourquoi Dieu se plaint-il encore? Si tout doit finalement se soumettre à sa volonté et à son conseil, l'homme ne peut pas être rendu responsable du résultat final. C'est Dieu qui a décidé de l'issue du chemin de sa vie. Ceci rappelle les excuses de nos premiers parents après la chute. Adam et Ève cherchèrent eux aussi à attribuer à Dieu la responsabilité de ce qui s'était passé. Pourquoi avait-il permis au serpent l'accès du jardin d'Éden? Pourquoi avait-il donné à l'homme la femme qui devait le tromper? En Romains 9, les paroles sont, il est vrai, différente, mais le principe est le même. Dieu est coupable et non pas l'homme. Pourquoi sauve-t-il l'un et rejette-t-il l'autre? Que peut faire l'homme si Dieu l'endurcit? Disons encore une fois que toutes ces questions et ces déductions mettent d'une part de côté la gloire de Dieu et d'autre part la responsabilité de la créature. Le propos souverain de Dieu. Et comment serait-il Dieu s'il n'était pas souverain? N'annule pas la responsabilité de l'homme. Prenons comme exemple plus clair la croix. Le conseil défini que le bien-aimé de Dieu devait souffrir avait été décidé dès avant la fondation du monde. Dieu avait, selon sa connaissance, destiné Jésus à devenir l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais est-ce que cela a amoindri en quelque manière la culpabilité de l'homme? Non, pas le moins du monde. Les Juifs et les gentils se trouvèrent d'accord ce jour-là dans leur inimitié commune contre Dieu et contre son oint. Leur conduite accomplit, il est vrai, la parole du prophète et donna à Dieu l'occasion d'exécuter son jugement contre le péché et aussi l'œuvre merveilleuse de sa grâce. Mais les hommes n'en furent pas moins coupables du rejet et du meurtre du Fils de Dieu. Voir Acte 2, versets 22-23.
Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, homme approuvé de Dieu auprès de vous par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez, ayant été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu, lui, vous l'avez cloué à une croix et vous l'avez fait périr par la main d'hommes iniques.
La déduction qui a donné naissance à la question « Pourquoi se plaint-il encore ?» est donc absolument fausse. Si Dieu, dans sa sagesse infinie et sa riche miséricorde, laisse se développer la méchanceté de l'homme pour accomplir ses conseils, c'est précisément selon sa souveraineté. Mais cela ne change rien à la volonté de l'homme, qui reste ce qu'elle est, mauvaise et inexcusable. Certes, si ce que la sévère théologie calviniste enseigne était vrai, que Dieu a prédestiné ceux qui sont perdus à la condamnation, la difficulté serait grande. Mais Dieu soit loué, cela n'est nullement vrai. L'Écriture ne parle jamais ainsi malgré les quelques passages qui ont pu donner lieu à cette opinion. Qu'en est-il donc? L'apôtre, avant de répondre à la question posée, appuie, comme nous l'avons déjà remarqué plusieurs fois, sur la souveraineté de Dieu, le premier de ses droits, et montre à celui qui a posé cette question la méchanceté de son cœur. Est-ce qu'un homme, ayant une conscience réveillée et exercée, pourrait parler ainsi? Jamais une âme repentante n'attribuera de l'injustice à Dieu ou l'accusera d'être responsable de la perdition de quelqu'un. Quiconque tient un tel langage montre l'aveuglement naturel et l'orgueil de son cœur. Mais plutôt, toi, ô homme, qui es-tu qui contestes contre Dieu? La chose formée, dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu ainsi faite? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse un vase à honneur et un autre à déshonneur? Versets 20 et 21. Or, si la créature a un tel pouvoir, et qui veut le contester, combien plus encore le Créateur? Pourquoi m'as-tu ainsi fait? Un homme, en posant cette question à Dieu, ne dit finalement rien d'autre que ceci. Dieu n'a aucun droit de juger le mal, et s'il ne veut pas faire grâce à tous et les sauver, il ne doit au moins punir personne. Tout juste gouvernement se trouve ainsi exclu, et Dieu serait obligé de supporter le mal, ce qu'aucun homme honorable ne ferait dans sa maison ou dans son entourage. On oublie que Dieu a créé l'homme bon et droit, et qu'il l'a averti sérieusement et énergiquement du péché et de ses conséquences, mais que l'homme a succombé à la tentation et a commis péché sur péché, violence sur violence. Oui, tout cela nous l'oublions ou nous l'excusons à dessein. Mais dira-t-on, n'y a-t-il pas dans les paroles de l'apôtre qui dit que le potier peut faire, selon son bon plaisir, du même argile un vase à honneur et un autre à déshonneur, n'y a-t-il pas, dis-je, dans ces paroles, une confirmation des reproches que l'on adresse à Dieu? Ce langage de l'apôtre est hardi, à tel point que même des commentateurs éclairés de la parole de Dieu ont mal compris ce passage, oubliant que ce que l'écrivain avait en vue surtout, c'était de maintenir ferme dans toute son inviolabilité la souveraineté de Dieu. Il néglige de considérer que Dieu n'a pas du tout usé de son droit, comme on pouvait s'y attendre d'après l'image du potier. Les deux versets suivants nous montrent comment Dieu a agi. Toutefois, il était convenable vis-à-vis de Dieu et utile pour l'homme de bien établir auparavant les droits souverains de Dieu. Combien souvent ceux qui parlent sans cesse de droit oublient que Dieu a aussi des droits. Certes, s'il existe des droits, les siens, en tant que créateurs, doivent être souverains, surtout si nous nous souvenons que nous sommes non seulement des créatures, mais des créatures déchues, des pécheurs qui, nécessairement, doivent récolter les fruits de leur mauvaise conduite. Voyons maintenant comment l'apôtre répond à cette difficile question. Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout préparés pour la destruction, et afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire, lesquels aussi il a appelés, savoir nous, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations, versets 22 à 24. Nous avons déjà fait remarquer que Dieu doit nécessairement manifester une fois sa colère sur tout le mal qui s'est fait et se fait encore dans ce monde, et qu'il doit faire connaître sa puissance à l'homme orgueilleux et opiniâtre s'il veut maintenir son caractère de Dieu saint. Comment se fait-il donc que, jusqu'à aujourd'hui, il n'ait pas manifesté cette colère et cette puissance, mais qu'il ait supporté avec une grande patience les vases de colère? A-t-on le droit de lui reprocher son manque de miséricorde ou son injustice? Est-ce que le Dieu trois fois saint pourrait rester indifférent à l'égard du mal ou avoir communion avec lui? Impossible. Et pourtant, l'homme n'a pas cessé, durant toute son histoire, de le provoquer par le mépris de tous ses droits, par son orgueil incorrigible, par son immoralité, ses imprécations et ses blasphèmes. Mais malgré tout cela, Dieu attend encore et n'exécute pas le jugement mille fois mérité. Combien il a usé de grâce et de longanimité. Il a supporté les vases de colère avec une bonté et une indulgence merveilleuses. Oui, il ne leur a montré que de la grâce, leur parlant toujours à nouveau, se levant de bonne heure, comme autrefois en Israël. Mais comment les hommes ont-ils répondu à cela? Ils ont rejeté tout son conseil et n'ont pas voulu de sa répréhension. A-t-il tort en les faisant manger du fruit de leur voix et en les rassasiant de leur propre conseil? Voir Proverbe 1, verset 24 à 33.
Parce que j'ai crié et que vous avez refusé d'écouter, parce que j'ai étendu ma main et que personne n'a pris garde, et que vous avez rejeté tout mon conseil, et que vous n'avez pas voulu de ma répréhension, moi aussi je rirai lors de votre calamité, et je me moquerai quand viendra votre frayeur, quand votre frayeur viendra comme une subite destruction, et que votre calamité arrivera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Alors ils crieront vers moi, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront de bonne heure, mais ils ne me trouveront point, parce qu'ils ont haï la connaissance, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, qu'ils n'ont point voulu de mon conseil, qu'ils ont méprisé toute ma répréhension. Ils mangeront du fruit de leur voix et seront rassasiés de leurs propres conseils. Car la révolte des simples les tue et la prospérité des sots les fait périr. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans crainte du mal.
L'apôtre appelle ces hommes vases de colère, en rapport avec l'image du potier, de même qu'il désigne comme vase de miséricorde ceux qui se soumettent à Dieu et à sa parole. Les uns et les autres s'acheminent vers leur but final, soit la destruction, soit la gloire. Ils sont préparés à cela, mais ne perdons pas de vue la grande différence qui existe entre les deux préparations. Beaucoup ne l'ont pas distingué. Et non, pour cette raison, pas saisi le sens ou la force de l'argumentation de l'apôtre. Au sujet des vases de colère, l'apôtre dit seulement « préparés pour la destruction », tandis que pour les vases de miséricorde, il dit qu'il, Dieu, les a préparés d'avance pour la gloire. Des vases de colère, il n'est dit ici, ni dans aucun autre passage, que Dieu les a préparés d'avance pour la destruction. Non, ils l'ont fait eux-mêmes par leurs péchés et surtout par leur incrédulité et leur rébellion contre Dieu. Quant aux vases de miséricorde, c'est Dieu qui les a préparés, et même préparés d'avance et destinés à la gloire. Ils n'ont contribué en rien à cela. Tout est l'œuvre de Dieu, accomplie selon son propre dessein et sa propre grâce, qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant les temps des siècles, de Timothée 1, verset 9. Ainsi donc, réalisons encore que le mal ne se trouve que du côté de l'homme, et non pas du côté de Dieu, et d'autre part, que le bien ne vient que de Dieu, et non pas de nous. En outre, il se trouve de nouveau confirmé que le propos de Dieu demeure selon l'élection, non point sur le principe des œuvres, mais de celui qui appelle, verset 11. Les vases de miséricorde ne sont pas destinés à la gloire parce qu'ils se sont distingués des autres par des privilèges particuliers ou des vertus spirituelles, mais Dieu les a préparés d'avance pour la gloire, sans condition, selon son élection souveraine, selon le choix de la grâce. Il est certain que, dans le cours des siècles, ils ont été appelés, justifiés, etc. Chapitre 8, versets 29 et 30.
Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Et si Dieu donne plus de forces spirituelles et de dons de grâce à l'un des vases qu'à un autre, tous ont été néanmoins préparés d'avance par lui, avant qu'aucun d'entre eux ne fût préparé pour sa propre gloire. C'est pourquoi, comme nous l'avons déjà plusieurs fois répété, tous célébreront un jour la grâce insondable et invariable de Dieu. Alors sera accomplie pleinement la parole, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pénétré de la plénitude de la grâce, l'apôtre fait allusion à la glorieuse manifestation de cette grâce par l'appel des croyants, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations. Quand l'épreuve du peuple le plus favorisé de cette terre s'est terminée par une culpabilité et une ruine irrémédiables, aboutissant à la colère et au juste jugement de Dieu, les écluses de la miséricorde divine se sont ouvertes pour appeler, d'entre les Juifs et d'entre les nations, un peuple pour la gloire céleste. La grâce a été d'autant plus grande que la ruine a été plus profonde. L'apôtre cite deux passages du prophète Osée pour montrer que Dieu avait déjà autrefois parlé de ces choses par son esprit. Chapitre 1, verset 10.
Cependant, le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut se mesurer ni nombrer. Et il arrivera que, dans le lieu où il leur a été dit « Vous n'êtes pas mon peuple », il leur sera dit « Fils du Dieu vivant ».
Et Osée 2, verset 23.
Et je la sèmerai pour moi dans le pays, et je ferai miséricorde à Lo-Ruhama, et je dirai à Lo-Ammi, tu es mon peuple, et il me dira, mon Dieu.
Pierre, qui écrit exclusivement aux croyants juifs, ne cite que le second passage, 1 Pierre 2, verset 10.
Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde.
L'apôtre des nations, pensant à l'introduction des gentils, cite les deux. Au verset 25, il accentue le fait que Dieu se souviendra de son conseil concernant Israël et qu'il appellera de nouveau « mon peuple » à la fin des temps, le peuple qui maintenant porte le nom de « pas mon peuple » et « bien-aimé », celle qui n'était pas bien-aimée. Au verset 26, il dirige notre attention sur le fait que le second passage cité contient une allusion aux nations. Et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit « Vous n'êtes pas mon peuple », là ils seront appelés « Fils du Dieu vivant ». Ce titre est le privilège particulier des croyants d'entre les nations, et non pas des Juifs, qui sont le propre peuple terrestre de Dieu. L'argumentation de l'apôtre est ainsi simple et claire. L'appel de grâce de Dieu aux Juifs et aux nations, comme on le trouve au verset 23, n'était pas une pensée étrangère à l'Ancien Testament et nouvelle, mais elle correspondait au contraire tout à fait à ses enseignements. Déjà, par le moyen d'Osée, Dieu avait annoncé sa grâce souveraine en faveur des gentils aussi bien que des Juifs. D'autres prophètes aussi en avaient parlé. Ainsi Ésaïe, tout en annonçant les sérieux jugements qui allaient venir sur Israël, avait déclaré qu'un résidu serait sauvé, car Dieu accomplirait sur la terre une affaire abrégée et la consommerait en justice. Déjà, au chapitre 1, verset 9, Ésaïe avait prophétisé « Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé un bien petit résidu, nous aurions été comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. » Sur le fondement de sa justice, Dieu aurait dû anéantir le peuple entier, mais selon sa promesse inconditionnelle, il pouvait et peut agir envers lui en grâce et lui laisser une semence. La miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement. Hélas, Israël n'a pas écouté ces avertissements de jugements et de grâce de la part de Dieu, mais ils ont fermé leurs oreilles et endurci leur cœur. Que dirons-nous donc? Ou à quel résultat sommes-nous parvenus? À celui-ci, que les nations qui ne poursuivaient pas la justice ont trouvé la justice. La justice qui est sur le principe de la foi. Mais Israël, poursuivant une loi de justice, n'est point parvenu à cette loi, versets 30 et 31. Toute l'histoire d'Israël démontrait clairement combien justes étaient les paroles des prophètes. Pourquoi Israël avait-il été amené en Assyrie à Babylone? Pourquoi se trouvait-il en ce temps-là sous la domination d'un tyran païen? Et plus encore, qu'était-il advenu des Israélites sous le rapport moral? Se plaçant sur le terrain de la loi, ils avaient poursuivi une justice extérieure et légale, et n'avaient point obtenu de justice. Par contre, la grâce de Dieu, sur un fondement de justice, avait abondé envers ceux qui vivaient loin de Dieu dans l'obscurité de leur cœur. Des païens qui étaient sans espérance dans le monde, et qui ne poursuivaient pas la justice, avaient obtenu gratuitement la justice sur le principe de la foi, accessible à tous ceux qui vivaient sans loi, ainsi qu'à tous ceux d'Israël qui, reconnaissant leur triste état, étaient prêts à recourir à la grâce. Et pourquoi les Juifs n'étaient-ils pas parvenus à la justice? Précisément parce qu'ils ne l'avaient pas poursuivie sur le principe de la foi, mais sur le principe des œuvres, verset 32. S'imaginant dans leur orgueil qu'ils pouvaient satisfaire le Dieu saint par leurs œuvres de loi, fiers de leurs privilèges nationaux et de leur propre justice qu'ils prétendaient établie, ils s'étaient heurtés contre Christ, la pierre que Dieu avait mise dans sa grâce en Sion. N'aurait-il pas dû saluer avec reconnaissance un tel sauveur? Au lieu de cela, il était devenu pour eux une pierre d'achoppement. Au lieu de croire en lui et de jouir de sa beauté, ils étaient scandalisés en lui. Comme il est dit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de chute, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. » Il est intéressant de voir comment le Saint-Esprit, par le moyen de l'apôtre, réunit ici les deux déclarations du prophète Ésaïe, en 8, verset 14 et en 28, verset 16.
« Et il sera pour sanctuaire et pour pierre d'achoppement et rocher de trébuchement aux deux maisons d'Israël, pour piège et pour lacet aux habitants de Jérusalem. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, je pose comme fondement en Sion une pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un sûr fondement. Celui qui se fie à elle ne se hâtera pas.